Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Au sommaire de cette Onde Noire, eh bien des romans que nous avons suffisamment appréciés pour vous en parler. Et puis on a le grand plaisir, parce que ça fait un moment qu'il n'était pas venu nous rejoindre, tout au moins grâce aux ondes téléphoniques, on aura le plaisir de retrouver Frédéric, notre BDiste, je ne sais pas si ça se dit trop, mais qui va non pas nous parler d'une BD, mais d'une sélection de bandes dessinées qui concourent pour un prix. Donc, en cette première partie d'émission, on va vous parler d'un roman et d'un romancier qui a, je dirais, un petit peu, il y a une dizaine d'années, il y a exactement 10 ans, remis un petit peu le polar italien sur la selle, parce qu'il y avait un grand engouement pour le polar italien et beaucoup d'auteurs, et puis ça s'était un petit peu ralenti, et arrive Giancarlo Di Cataldo avec un livre qu'on a découvert en 2006, qui avait été écrit en 2002, et son roman qui est encore très connu, c'est Romanzo Criminale. Il est paru en France en 2006, l'année où Roberto Saviani, autre écrivain maintenant autre écrivain célèbre italien, écrit l'implacable Gomorra. Donc l'un, ça se passe à Rome. Voilà,
ah, Rome, l'autre à Naples.
Voilà, Saviano, c'est la mafia à Naples, et Romanzo Criminale, c'est d'ailleurs pas que la mafia. Et c'est un livre qui a vraiment un grand souffle, ce roman, Romanzo Criminale. Ça avait séduit vraiment de nombreux lecteurs par la force du propos, par le témoignage, par ce témoignage sur les années 70, ces collusions entre le grand banditisme, les milieux économiques, politiques, y compris d'ailleurs les milieux judiciaires et policiers. Et puis, il y avait aussi la force de ces personnages, le Libanais, le froid, leur destin très classique dans un polar, leur ascension pour mettre Rome sous leur coupe. Et puis, évidemment, à un moment, la chute aussi implacable. On avait remarqué donc le talent d'écrivain de l'auteur italien, de Giancarlo Di Cataldo, et son habileté à faire une fresque qui racontait plus de 15 ans, hein, ça commençait dans les années 75, ça se terminait dans les années 90, et c'est une histoire particulièrement très troublée de l'Italie, c'est ces fameuses années de plomb. D'ailleurs, le cinéma n'avait remarqué, puisque une adaptation réussie, ce n'est pas si fréquent, tournée par, alors je sais pas trop le dire,
Michele Placido,
en 2006, hein, le film est sorti quelques mois après le roman, et certains acteurs t'avaient, je dirais même actrices t'avaient pas mal impressionné, voire époustouflé à l'époque.
Ouais, il y avait un acteur qui est super beau d'ailleurs, qui jouait le froid, qui s'appelle Kim Rossi Stewart.
On n'a plus trop entendu parler.
Il tourne toujours, hein, mais il tourne même à Hollywood maintenant. Et il y a aussi un autre qui jouait le Libanais. Alors il s'appelle le Libanais, pas du tout parce qu'il venait du Liban, mais parce qu'en fait. Parce qu'en fait, il aimait beaucoup un produit qui vient de ce pays, le Liban, et dont on vend parfois les excellentes qualités, mais évidemment, on peut pas. Nous, on sait pas. Hein. Et donc, l'acteur qui jouait le Libanais s'appelle Pierre Francesco Favino, et il y avait donc cette très jolie actrice qui jouait Patricia, et qui s'appelle toujours Anna Mouglalis.
Voilà, très jolie. Qu'on retrouve le personnage, me semble-t-il, dans le livre suivant, qui est La Saison des Massacres. Je crois qu'on retrouve
le
Patricia.
Libanais, ouais. Dans La Saison des Massacres, on retrouve Patricia et le flic aussi. Oui, j'ai oublié de noter le nom de l'acteur qui jouait le...
Alors, très vite, La Forme de la Peur. Et puis, ce que moi, je peux vous conseiller de Giancarlo Di Cataldo, c'est dans un recueil de trois nouvelles, qui s'appelle Les Juges. Alors, évidemment, recueil superbe, parce que on a droit à trois des meilleurs auteurs de romans noirs italiens. Jugez du peu, Andrea Camilleri, Carlo Lucarelli, et évidemment, Giancarlo Di Cataldo. Voilà. L'intérêt, c'est qu'on a trois histoires à trois époques. Une à la fin du 19e siècle. Et trois visions très différentes du métier de juge.
Et quand tu métier du juge, Giancarlo Di Cataldo, il peut en parler, puisqu'il est lui-même juge. Donc,
même très élevé dans la gradation
voilà,
du juge.
Avant d'être écrivain, il est juge.
Et donc tout ça pour introduire le dernier roman qui vient de paraître.
Voilà, qui s'appelle donc Subura, qui est écrit par Giancarlo Di Cataldo et Carlo Bonini, était donc toujours publié chez Métayer et traduit par, bien évidemment, par leur traducteur attitré Serge Quadrupani. Alors, comme tu le disais, en fait, c'est la suite de la saga de Rome, la saga de l'Italie, de la, ou plutôt des mafias. Alors, à part un prologue qui se passe en 93 et qui nous présente les deux personnages principaux de cette histoire, le roman se déroule plutôt de nos jours, enfin, disons, à la fin de l'ère Berlusconi. Des Cataldo pourra probablement rajouter un nouveau chapitre à cette saga avec le Rome de l'après Silvio. On verra dans quelques années.
Oui, je pense qu'il y a des choses coquignolettes aussi.
Certainement. Enfin, quand je dis un chapitre, c'est une façon de parler parce que ces romans sont plutôt épais. Celui-là, il fait environ 450 pages. Donc, Cataldo s'est associé pour cet ouvrage avec un journaliste d'investigation de La Repubblica qui est spécialisé dans le crime et dans les mafias, donc qui sait apparemment très très bien de quoi il parle. Alors, les deux personnages principaux dont je parlais tout à l'heure et que l'on découvre dès le prologue sont Samouraï, du côté des méchants, et Marco Malatesta, du côté des gentils. Bien sûr, gentil et méchant, c'est pour faire simple au départ, car on verra assez vite que pour de nombreux personnages, pas forcément ceux-là, la frontière entre gentil et méchant est extrêmement perméable. Samouraï, c'est un peu l'héritier du froid et du libanais, donc des précédents romans.
Donc dans Romanzo Criminale.
Voilà, il les a connus en prison. C'est un vieil activiste et chef fasciste, et il a viré au super chef de gang, sans perdre ses idées un peu pourries. Et là, il a son méga projet, sur lequel il veut absolument pas finir sa vie, mais sur lequel voilà, il veut absolument réussir, un méga projet immobilier qu'il appelle Waterfront, en italien bien évidemment, qui va être en gros le bétonnage de tout son territoire, c'est-à-dire depuis Rome jusqu'au bord de la mer, à Ostie, etc., le port de...
Ah, il est venu voir la Côte d'Azur, c'est ça?
Voilà. Et alors Waterfront, alors, c'est un très grand projet, évidemment, complètement prêt pour ses amis mafieux de toutes les...
La non-ghetta, voilà, la mafia calabrese, sicilienne.
Voilà. Donc le deuxième personnage principal, c'est Marco Malatesta. Lui, il est flic, lieutenant-colonel des carabiniers. Et il connaît assez bien le samouraï car il a fait partie de ses nervis quand il était jeune.
C'est un repenti.
C'est un repenti, en quelque sorte, voilà. Et le roman, ça va être un petit peu leur affrontement. Mais pas seulement. Car le récit est bien plus dense que ça. Je parlais des deux personnages principaux, mais en fait, il y a une bonne trentaine de personnages principaux, enfin en tous les cas, qui reviennent très régulièrement au devant de la scène, ou plutôt du Tibre, en fait, puisqu'on est à Rome. Et du côté des mafieux, on retrouve des Calabrais, des Gitans, des Napolitains, on en parlait. Alors, il y a des gros bras abrutis, et il y a même un philosophe, enfin un philosophe des rues, comme il s'appelle. Il s'appelle Max, en fait, mais il est surnommé Nietzsche, parce que c'est comme ça qu'on dit Nietzsche en italien.
Oui.
Alors, du côté de la loi, il y a quelques flics de base, plus ou moins gradés, jusqu'au général des carabiniers. Il y a un procureur, amateur de jazz, sympathisant de gauche. Et puis, entre les deux, on trouve des politiciens corrompus, parfois plus drogués que certains junkies, mais seulement à la cocaïne, monsieur. Il y a aussi des hommes d'église, particulièrement un homme d'église, pas piqué des verres. Lui aussi corrompu jusqu'au dernier bouton de son habit et amateur de jeunes hommes bien frais, tout en vitupérant contre le laxisme des mœurs d'aujourd'hui. Mais surtout, il y a quelques superbes personnages féminins. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui fait le vrai plus par rapport... par rapport à Romanzo Criminale, dans lequel il n'y avait aucun personnage sympathique auquel on pouvait s'attacher.
Même pas Patricia. Oh si, quand même.
Un petit peu, peut-être. Et là, c'est avec ces femmes qu'on trouve un peu de beauté et surtout de l'intégrité. Il y a Alba, le capitaine de police, qui est l'ancienne maîtresse de Marco. Et il y a Alice, qui est une activiste écolo-altermondialiste, qui va devenir la nouvelle maîtresse de Marco. Et il y a une nouvelle prostitute, comme disait Coluche, Sabrina, qui aura un peu affaire à toutes les parties, si j'ose dire. Et c'est de ces femmes que viendra la chère rédemption, qui est du roman noir. Chère pourront même s'écrire ça, chère, dans ce cas-là. Un autre personnage apparaît tout au long de Subura. Subura, c'est un quartier de Rome, là où est né Jules César, j'ai lu ça cet après-midi. C'est Rome, justement, en fait. Parce qu'on sent que les deux auteurs sont amoureux de cette ville, et qui se désole de la voir pourrir de l'intérieur. On a donc la Rome des bas-fonds jusqu'à la Rome des plafonds, les plafonds dorés des palais de la République. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que des personnages ou cette histoire du crime à Rome, car il y a une écriture qui est vraiment très forte, qui sous-tend tout ce roman. Un souffle, une force évocatrice. Les deux romanciers, je ne sais pas qui a écrit quoi, ont un vrai sens du récit, des dialogues, et même des scènes d'action qui sont dignes des meilleurs thrillers. Poursuite en moto, une superbe triomphe Bonneville, en voiture, il y a un arraisonnement d'un bateau, et il y a des scènes de foule ou de manifestations qui elles-mêmes sont racontées, on dirait qu'elles sont écrites caméra à l'épaule. On ressent presque les coups de matraque ou les coups de barre de fer ou même les gaz lacrymogènes. Autre force de ce roman qui lui donne sa vitalité et sa densité par rapport à Romanzo Criminale, c'est que lui, il se passe en moins de 10 jours. Ça va très vite, il n'y a pas de temps mort, les personnages agissent tout le temps. Et il y a en plus toutes ces langues. Les langues qui vont du calabré au romain, la langue du dealer à celle du général. Et les auteurs ont réussi à bien rendre ça. Et surtout, le traducteur...
C'est ce que j'allais dire, voilà. Ça crée toujours un challenge pour le traducteur.
Le traducteur a réussi à nous les restituer, même si certains de ses choix de transposition vont pouvoir gêner certains. Mais bon, c'est ses choix et ils sont respectables en tous les cas. Un autre point très inquiétant, c'est de voir à quel point, donc en Italie, dans les années 2000-2010, les idées d'extrême droite, voire fascistes, sont très bien implantées dans la société romaine.
Ceci dit, ça c'est pas franchement une nouveauté.
Non, c'est pas franchement une nouveauté, mais au vu des résultats de nos élections récentes, on a de quoi un peu de se faire du souci, nous aussi, du côté de ce côté.
Disons que ça en rajoute une couche, quoi.
Voilà. Tout comme Romanzo Criminale, il y a un film qui est sorti presque en même temps que le livre en France, mais dont la diffusion dans notre région est restée plutôt, disons, restreinte. Donc, on n'a pas vu, on ne peut pas vous en parler, mais on ne manquera pas de le faire quand le DVD ou le Blu-ray sortira. C'est donc une année littéraire 2016 qui commence fort bien, du moins du côté de l'Italie. Et je précise que c'est, on a dit que c'était une suite de Romanzo Criminale, mais qu'on n'est absolument pas obligé de l'avoir lu pour lire celui-là. C'est complètement indépendant. Ce qui est sûr, par contre, c'est que quand on l'aura lu, on aura absolument envie de lire Romanzo Criminale et Je suis le Libanais.
Et ce qui est intéressant, c'est que Poinseuil, les éditions du Seuil, dans leur collection de poches, ont l'année dernière réédité, donc ils ont fait ça, je crois, sur 9 romans, dans une petite collection Point Culte, ils ont réédité Romanzo Criminale. Alors bon, la couverture n'est peut-être pas de très bon goût, mais... c'est un excellent roman, donc.
Et la saison des massacres existe aussi.
Voilà, foncez sur l'édition de poche. Eh bien, on va terminer cette première partie d'émission en illustrant ce roman par un petit peu de jazz, Jacques.
Un petit peu de jazz. Donc, le procureur dont j'ai rapidement parlé, mais parce que je pouvais pas trop m'attarder, est un grand amateur de jazz et son musicien préféré est Michel Petrucciani. Nous, c'est un pianiste qu'on adore. Donc, on va écouter Michel Petrucciani, un morceau qui s'appelle Gatito. Comme ça, c'est un titre italien.
Petit chat, c'est ça?
Petit chat, voilà. Petit chat, peut-être. Et donc, Petrucciani est en trio avec Aldo Romano. C'est lui qui a écrit le morceau. Romano, donc, à la batterie. Et Jean-François Jenny-Clark à la contrebasse. C'était le deuxième morceau de la phase B. On va pouvoir poser le diamant, juste la paf. Et c'est un album de 81, Gatito.
Et on vous retrouve dans la deuxième partie d'émission.